Chapitre 5. Soyez intègres. Jean-Baptiste, lui, établit un lien entre la générosité et l'intégrité. Les gens lui demandaient, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Celui qui a deux chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger doit partager. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne faites pas payer plus que ce qui vous a été indiqué. » Des soldats lui demandèrent également, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « Ne prenez d'argent à personne par la force ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. » Luc 3, 10 à 14. Quel est donc le message du plus grand homme qui soit né jusqu'à la venue de Jésus ? Conformément à Matthieu 11, verset 11, c'est le repentir attesté par des fruits concrets. Quels sont ces fruits? Ce sont la générosité et l'honnêteté. Nous aurions pu nous attendre à de hautes exigences morales, intellectuelles ou religieuses. Il n'en est rien. Dieu ne nous demande pas de décrocher la lune, mais d'être capable de donner une chemise, partager ses biens et privilèges, et de ne pas utiliser une position pour charger, menacer ou tromper financièrement notre prochain. La générosité et l'honnêteté s'opposent à l'amour de l'argent. Elles allègent les fardeaux de ceux que nous côtoyons professionnellement. Le malheur s'acharne sur qui agit mal, alors que le bonheur récompense les gens honnêtes. Proverbe 13, verset 21. Avez-vous déjà pensé aux milliards que l'humanité épargnerait chaque jour si elle pratiquait l'honnêteté? Des montagnes de paperasserie, de systèmes de sécurité, d'assurances ruineuses disparaîtraient. Beaucoup de soupçons, de conflits, de meurtres, de guerres, d'emprisonnements et de souffrances de toutes sortes cesseraient. Tous les degrés existent entre un voleur invétéré et un homme juste, entre un peuple gangrené et une ethnie droite, entre une entreprise mafieuse et une société intègre. Vous ne pouvez changer en un instant votre pays ou votre entreprise, mais vous pouvez y semer la droiture. Jean-Baptiste n'a pas proposé de vêtir tous les démunis de la terre, mais son message a certainement contribué à en habiller des millions. Ce que vous pouvez changer aujourd'hui, c'est votre gestion personnelle dans votre cercle d'influence. Au départ, cela ne semble qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais comme chacun le sait, l'océan est composé de gouttes d'eau. Si notre bureau est rempli de stylos, gommes et articles divers qui ne nous appartiennent pas, si nous téléphonons et photocopions illégalement, que notre bibliothèque est garnie de livres empruntés non rendus, notre salon de vidéos qui ne sont pas à nous, et notre atelier d'outils jamais payés, notre vie flirte avec la corruption. La corruption, un fléau contagieux. Bien que l'intégrité concerne toute profession, le fonctionnaire, comme le souligne le texte cité, est au cœur du défi. Son autorité, étatique ou privée, doit être utilisée pour exercer la justice en sanctionnant le mal et stimulant le bien. Quand elle abandonne cette ligne de conduite, elle devient dictature, source de terreur, de domination et d'abominable injustice. Un fonctionnaire tatillon, borné et corrompu, paralyse l'administration et oppresse les administrés. Une femme médecin d'un pays relativement prospère m'a donné matière à réflexion. Il y a quelques années, m'a-t-elle affirmé, on ne pouvait trouver un seul policier corrompu dans mon pays. Aujourd'hui, je n'en connais pas un seul qui ne le soit. La corruption pourrit tout sur son passage et ne respecte aucune limite. Des personnes d'expérience m'ont attesté que, dans certaines universités, quelqu'un peut acquérir un diplôme de médecin entièrement par la corruption. Par la suite, il utilise ce titre pour se voir ouvrir d'autres portes et parfois exercer la médecine sans la connaître, avec les dangers invraisemblables que cela comporte. Cet état de fait fausse tout. Nous ne savons plus où est la norme. Par exemple, certains policiers nouvellement convertis croit que l'amour consiste à ne plus sanctionner qui que ce soit. Que faut-il en penser? Le Seigneur déteste autant celui qui déclare innocent un coupable que celui qui condamne un innocent. Proverbe 17, verset 15. Ce n'est pas parce qu'un magistrat est chrétien qu'il doit être mou. Il doit être juste. Certes, payer une contravention n'est jamais agréable, et un policier qui tient compte de l'esprit de la loi plutôt que de son application aveugle sera apprécié et respecté. Mais sa fonction lui donne plein droit pour faire appliquer la justice. Son mandat humain et divin le conduira à punir ou à encourager celui qui le mérite. En contrepartie, l'honnêteté pour un disciple de Christ qui a transgressé la loi sera de le reconnaître et de payer ce qui est juste comme réparation. Ne pas s'acquitter d'une place de parking payante, se faire prendre sur le fait et se justifier à en perdre la voix est tout sauf spirituel. Un chef d'État chrétien nous a reçus à la présidence. Nous étions 8 orateurs invités pour une conférence internationale. Il a commencé par nous parler de son expérience de foi, puis la discussion s'est orientée sur la manière de conduire une nation dans la droiture. Que faire quand la corruption a envahi la fonction publique, en particulier les douanes, la police et jusqu'à la justice? Nous lui avons suggéré qu'en général, la fraude, telle une maladie contagieuse, commence par un homme puis développe ses tentacules pour s'ériger en habitude. Mais l'intégrité est heureusement elle aussi contagieuse. Plus la position de l'initiateur est élevée, plus l'influence est forte d'un côté comme de l'autre. Lorsqu'un chef prête attention à des mensonges, tous ses subordonnés deviennent malhonnêtes. Proverbe 29, verset 12. Si le chef de chorale entonne faux, toute la chorale le suivra. Il est absolument nécessaire que dans toute l'échelle sociale, en commençant si possible par les ministres et le chef de l'État, des hommes et des femmes intègres soient choisis pour élever la droiture. Pouvons-nous imaginer qu'aujourd'hui, dans certains grands hôpitaux, on laisse courir les rats entre les lits, ou encore que le téléphone soit coupé pour insolvabilité? Oui, vous avez bien lu. La ligne téléphonique principale de l'hôpital universitaire d'une capitale a été coupée pour raison de non-paiement. Corruption et négligence anéantissent les plus grands projets humanitaires et salissent les plus grands doctorats. À ce propos, nos hautes écoles n'ont pas encore compris qu'un cerveau rempli, sans formation du caractère et sans les valeurs de l'Évangile, peut produire des voleurs, des pilleurs et autres démons sanguinaires de la pire espèce, à l'exemple de Pol Pot. Dans plusieurs pays occidentaux, on a non seulement ignoré les préceptes de Christ, mais on les a écartés, interdits, dénigrés. On a formé des générations d'enseignants à une attitude laïque exacerbée, afin qu'eux-mêmes soient capables d'ébranler, ou mieux, de déraciner le peu de foi qu'un élève pourrait avoir. La récolte de cette semence mortelle a commencé. Agression, raquette, drogue, anarchie, fanatisme envahissent un établissement après l'autre et une classe d'âge après l'autre. Beaucoup justifient leur corruption en disant qu'ils en ont besoin pour vivre. Cette grossière excuse, si elle satisfait les copains du bistrot, maintient la société dans la crainte et l'esclavage. Jésus leur dira « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Il y aura là des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. » Luc 13, versets 27 et 28. Ceux qui préfèrent mourir honnêtes plutôt que de vivre corrompus sont les authentiques réformateurs. Puis-je exercer n'importe quelle activité au nom de Christ? Y a-t-il des métiers intrinsèquement malhonnêtes? Oui. Toute activité, occasionnelle, habituelle ou professionnelle, peut-elle se faire au nom de Christ? Non, bien sûr. Il y a une éthique biblique du travail incompatible avec le mal institutionnalisé. Le patron d'un magasin d'électronique justifiait la vente de cassettes vidéo pornographiques dans ses rayons, en disant que, s'il s'en abstenait, ses clients se serviraient de toute façon ailleurs. Il oublie qu'il initie aussi une nouvelle clientèle, tentée chez lui et non ailleurs, qu'il facilite et encourage le vice des autres, et que le 100% de tous les hypocrites peuvent chanter le même refrain. Si l'honnêteté peut briller dans une multitude de professions et au sein des endroits les plus ténébreux, il est cependant vital de savoir dire non aux propositions condamnables. Une infirmière que l'on oblige à coopérer aux avortements, un commerçant sur qui l'on fait pression pour qu'il vende des cigarettes, un acteur que l'on veut entraîner dans une scène impure doivent savoir tenir tête. Celui qui n'est pas prêt à subir les conséquences de son honnêteté glissera dans le compromis. Nous pourrons essayer de noyer le poisson en trouvant des défauts à toute profession, mais le lecteur sincère et désireux d'honorer Christ par son travail sera discerné. Une amie veuve, ayant deux enfants à charge, c'est un métier, a rencontré un homme désirant partager sa vie. Elle aurait facilement pu conserver sa rente de veuve en choisissant le concubinage. Par honnêteté et malgré la pression de sa parenté, elle a choisi le mariage tout en sachant qu'elle perdrait définitivement une coquette somme mensuelle. Être prêt à perdre de l'argent, son travail, sa position sociale, sa réputation ou sa vie est parfois le prix inévitable de l'honnêteté. Lors de mes examens finaux, point culminant de 4 ans d'apprentissage, j'avais fermement résolu de ne pas tricher. Alors que je dessinais un schéma électronique, un ami qui connaissait le sujet bien mieux que moi passa à côté de ma table. Il mit son doigt sur ma feuille et me dit « Cette antenne doit être placée ici, celle-là à cet endroit-là. » C'était si facile de gommer mes erreurs et de suivre ses indications. J'étais placé devant un choix. Je rendis ma feuille sans la modifier. Les matières étant nombreuses, je réussis ces examens. Quelques mois plus tard, je me retrouvai à l'école d'évangélisation. Là, Dieu m'amena à mettre de l'ordre dans ma vie. Je fus convaincu de la nécessité d'aller trouver une quarantaine de personnes que j'avais offensées durant mon enfance et adolescence pour leur demander pardon. Je réalisai alors avec certitude qu'en cas de tricherie à ces fameux examens, le Saint-Esprit m'aurait demandé d'écrire une lettre aux autorités compétentes et de leur dire « Je suis désolé, j'ai obtenu mon diplôme, mais j'ai triché. » J'ignore quelles en auraient été les conséquences, mais j'étais plus que soulagé d'avoir tenu ferme. Nous avons le choix entre mettre nos vies en règle aujourd'hui ou supporter plus tard la honte sous une forme ou une autre. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doive être connu. Luc 12, verset 2. Loyauté ou déloyauté, obéissance ou désobéissance, Élisée ou Absalom. Un homme loyal sera comblé de bonheur. Proverbe 28, verset 20. Rares sont les pionniers qui réussissent sans un collaborateur loyal. Rares sont les dirigeants qui échappent à un foyer de déloyauté. Les Élisée sont des joyaux précieux. Les Absalom sont des mouches dans les yeux et des chardons dans les flancs. Le monde du travail compte un grand nombre de personnes des deux catégories. Ces deux personnages bibliques nous dévoilent quelques-unes de leurs caractéristiques. Élisée, le disciple d'Élie. Il, donc Élie, partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna les bœufs, courut après Élie et dit « Permets que j'embrasse mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui dit « Va, retourne. » Élisée prit la paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur viande qu'il donna à manger aux siens. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Élisée, qui deviendra un grand prophète, est capable de suivre et de servir. Quand Élisée prend la relève, voici ce qui arriva quand le Seigneur fit monter Élie au ciel dans la tempête. Élie et Élisée quittaient Gilgal. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je t'en prie, car le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » L'homme loyal n'attend pas impatiemment la retraite ou la mort de son maître. Au contraire, il la redoute. L'objectif d'Élisée. Élie dit à Élisée, « Demande ce que je dois faire pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que vienne sur moi, je t'en prie, une double part de ton esprit. » L'homme loyal poursuit sur l'œuvre commencée et la développe dans le même esprit. Au moment de la séparation, Élisée s'écrie, « mon père, char et cavalerie d'Israël !» Son affection est aussi sincère que profonde. La réputation d'Élisée. Josaphat, le roi, demanda, « N'y a-t-il pas ici un prophète par qui nous puissions consulter le Seigneur ?» Un officier du roi d'Israël répondit, « Nous avons avec nous Élisée, fils de Shaphat, qui était un collaborateur intime du prophète Élie. » 1 Rois 19, versets 19 à 21. 2 Rois 2, versets 1 à 2. Verset 9, verset 12. Chapitre 3, verset 11. Le disciple est devenu comme son maître. Ces deux prophètes ont été si proches qu'il arrive qu'on les confonde. Les caractéristiques de l'homme loyal. Élisée respecte hautement Élie et reconnaît son mandat divin. Il le sert d'un cœur dévoué. Il est attaché à lui. Il prend exemple sur lui et finit par lui ressembler. Il redoute son départ. Il continue son œuvre et la développe. Absalom, fils de David, une star. Dans tout Israël, il n'y avait personne d'aussi beau, d'aussi admiré qu'Absalom. De la plante des pieds au sommet de la tête, on ne trouvait aucun défaut en lui. Quand sa mentalité se dévoile. Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi qu'une troupe de 50 hommes qui couraient devant son char. Tôt le matin, il se postait au bord de la route à l'entrée de la ville. Chaque fois que passait une personne se rendant chez le roi pour demander justice à propos d'un procès, Absalom l'interpellait et lui demandait « D'où viens-tu ? » « Prince, je viens de telle tribu d'Israël. » « Bien, disait Absalom, ton affaire est bonne et tu es dans ton droit. Seulement, vois-tu, il n'y aura personne pour t'écouter de la part du roi. » Et il ajoutait « Ah, si j'étais juge dans ce pays, tous ceux qui ont des querelles ou des procès à régler viendraient me trouver, et moi je leur rendrai justice. » Si l'homme approchait, alors pour s'incliner jusqu'à terre devant lui, Absalom le retenait et l'embrassait. Absalom agissait de cette manière à l'égard de tous ceux qui venaient demander justice au roi, et il gagnait insidieusement l'affection des Israélites. Quand le jour J arrive, au bout de 4 ans, Absalom dit un jour au roi, « Permets-moi d'aller à Hébron pour y accomplir la promesse que j'ai faite au Seigneur. » À Hébron, Absalom fomente un coup d'État. David et ses ministres s'enfuient de Jérusalem. Absalom s'installe au palais. On dressa alors pour Absalom une tente sur le toit en terrasse du palais, et Absalom alla y coucher avec les épouses de son père à la vue de tout Israël. 2 Samuel 14, verset 25, 15, verset 1 à 7, 16, verset 22. Quelque temps plus tard, Absalom trouvera la mort dans une bataille où il a cherché à tuer son propre père. David sera restauré dans la royauté. Nul n'échappe à la loi divine. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14, verset 11. Les caractéristiques de l'homme déloyal. Il a de bons atouts. Ici, il est beau, admiré et habile. Il est techniquement à la pointe et s'octroie une place en vue. Il se bâtit une cour d'admirateurs. il est patient et déterminé. Il flatte les mécontents et focalise les faiblesses de l'ordre établi. Il proclame « Ah, si j'étais, moi je, tout irait mieux ». Il est opportuniste, saisissant toute occasion ou crise pour avancer ses pions. Il manipule son adversaire. Son dessein accompli, il se révèle odieux, cruel et impitoyable. La différence entre loyauté et déloyauté est aussi prononcée qu'entre le jour et la nuit. L'une édifie, l'autre renverse. L'une consolide, l'autre déstabilise. L'une apporte amitié et paix, l'autre conflit et culpabilité. L'une est désintéressée, l'autre égocentrique. L'une donne, l'autre exige. L'une engendre la plénitude, l'autre la misère. L'une soigne, l'autre blesse. L'une aime, l'autre hait, et ainsi de suite. Autorité et soumission. La déloyauté est souvent liée à l'orgueil et à son corollaire, l'insoumission. La loyauté est souvent liée à l'humilité et par conséquent à la soumission. Jésus n'a jamais flatté qui que ce soit. Pourtant, il a publiquement admiré la foi d'un capitaine romain. Que croyait donc cet officier? Après avoir envoyé chercher Jésus en faveur de son serviteur malade, il lui fait dire « Maître, ne te dérange pas. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais dis un mot, pour que mon serviteur soit guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un « Va », il va. Si je dis à un autre « Viens », il vient. Et si je dis à mon serviteur « Fais ceci », il le fait. Cet homme comprend la puissance de l'autorité et de la soumission. Sur le plan militaire, il obéit et donne des ordres. Il respecte et il est respecté. Il se reconnaît indigne que le Christ entre chez lui. Mais qu'importe, ce commandant sait que Jésus, par sa soumission à son Père, a toute autorité pour ordonner et guérir. Une seule parole de sa bouche suffira à rétablir son serviteur. Quand Jésus entend ces mots, il se retourne et dit à la foule qui le suit, « Je vous le déclare, je n'ai jamais trouvé une telle foi, non, pas même en Israël. » Luc 7, versets 6 à 9. Le premier roi d'Israël sera rejeté pour avoir brisé ses principes. Le prophète Samuel lui dira, « Pour lui, donc le Seigneur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination, et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Ainsi, puisque tu as rejeté les ordres du Seigneur, le Seigneur te rejette aussi, tu ne seras plus roi de son peuple. » Conformément à 1 Samuel 15, versets 22 à 23. L'obéissance jusque dans les détails et de tout cœur est une qualité inestimable aux yeux de Dieu et des hommes. Heureux ceux qui comprennent et pratiquent cela. Deux membres de notre équipe porteurs de vie sont allés trouver l'évangéliste Reinhard Bonnke pour recevoir quelques conseils. Ce dernier a souligné deux points. La chose la plus difficile pour former une bonne équipe est de trouver les personnes que Dieu appelle et d'éviter celles qui ne sont pas appelées. Il est indispensable que mes équipiers me respectent. Pour être béni dans votre travail et vous y épanouir, pratiquez l'honnêteté, soyez loyaux envers tous, respectez vos autorités et faites-vous respecter de vos subordonnés.